Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Que les contes sont éternels. Eh bien, figurez-vous que Barbe Bleue est parmi nous. Pierre Péju l'a retrouvée tout là-haut dans un chalet de montagne. Il imagine en 2009 une histoire malicieuse qui fait écho à l'effrayante histoire qu'écrit Charles Perrault sous le règne de Louis XIV. Le podcast que vous écoutez actuellement est donc en relation directe avec notre podcast de la collection « Raconte-moi les contes », dans lequel je vous présente et je vous lis, dans son intégralité, la version originale de Barbe Bleue. Écrivez tout avec presque rien dans votre moteur de recherche. Vous le trouverez, vous verrez. Voici pour l'heure un texte écrit au XXIe siècle par Pierre Péju, dont le personnage principal semble être une version moderne du héros le plus terrifiant de notre enfance. Cet homme a une barbe, sans doute. Qu'elle soit bleue, l'auteur ne le précise pas, mais l'homme dont il va nous raconter l'histoire vit bel et bien au XXIe siècle et il vient d'épouser une toute jeune fille. Voici les noces de Barbe Bleue. Je vous en lis ici les premières lignes. Jamais je n'ai fait de voyage de noces. N'en ferai jamais. Déjà, se marier. Si en plus fallait voyager, non, le jour même du mariage, je suis partie à la montagne. Avec ma jeune épouse, évidemment. Donc, pas de voyage, mais la montagne. Un petit chalet où je viens depuis longtemps, depuis toujours, je crois. Une construction de bois sombre, totalement isolée, près d'un col, entre deux sommets éternellement neigeux. Au village, situé un peu en contrebas, les gens appellent mon chalet le château de Barbe Bleue. Comme c'est étrange. Est-ce parce que je suis venue là avec mes précédentes épouses ? Le ton est donné. Notre homme est un bougon. Il a été marié plusieurs fois et n'a pas l'air commode avec sa jeune nouvelle épouse. Il est professeur de faculté et Claire, devenue sa femme, est l'une de ses étudiantes. Dès leur arrivée, l'homme prétexte un besoin de travailler et il s'enferme aussitôt dans une petite chambre. La jeune femme, pas contrariante, s'en va balader dans la montagne. C'est alors que l'histoire commence vraiment. Pierre Péju nous donne déjà des indices de ce qui va se passer, mais à ce moment-là de notre lecture, nous ne pouvons pas les repérer encore. Notre homme reste toute la journée enfermé dans son bureau. Et voici comment les choses vont commencer à s'orchestrer. Vers la fin du premier après-midi, mais je n'avais déjà bien plus le sens de l'heure. Le pas de ma jeune femme qui rentrait. L'humidité glacée avait dû la convaincre enfin de venir se réchauffer. Sans bruit, je mis l'œil à la serrure dont j'avais précédemment ôté la clé. Vous l'aurez compris, notre homme est un voyeur. Lui et nous allons passer la majeure partie de notre temps cachés, penchés, endoloris, la pupille contre le minuscule trou de la serrure. Revenu à mon poste d'observation, le bouquet n'était plus abandonné à lui-même, mais de petites mains l'arrangeaient, le caressaient, l'émoustillaient comme pour lui donner du gonflant. Les mains de Claire, fines et blanches, fragments de femmes. Rien que des mains, voltigeant entre les tiges, voltant d'une fragilité blanche à une légèreté mauve, frêles hirondelles, esthètes, édifiant un nid de couleurs et de senteurs. Ma fascination. Par instant, deux doigts prestes ôtent une tigelle fleurie qu'il repique d'un coup net en un autre point du bouquet. Le chantonnement de Claire par-dessus cette activité comme un bourdonnement d'insectes. Ces gestes surpris ne durèrent que quelques instants, ou peut-être un temps infini. Mais mon émotion était telle que je dus m'allonger sur le divan. Cœur en chamade, souffle court et bouche sèche. Mais ses mains papillons, oiseaux, insectes, picoraient toujours ma vue. Mains innocentes et joueuses aux doigts vibrants comme des ailes transparentes. C'est une écriture tout en finesse que Pierre Péju nous propose pour lentement insinuer de quelle pathologie notre monstre est atteint. Un peu plus loin, alors qu'il est résolu à sortir de son antre pour partager le dîner avec Claire, il parlera à nouveau de ses mains, ainsi. À table, à la dérobée, la pression de l'index et du pouce sur le manche du couteau. Le pouce et le majeur étreignant et secouant la salière. Tous les doigts s'unissant pour rompre le pain, ou quatre d'entre eux délégués à m'offrir un fruit. C'est une description méticuleuse, peut-être un peu trop. Cette obsession sur les mains de Claire est étrange, n'est-ce pas? Cela nous interroge. Le lendemain, sans autre indice, notre homme déclare à Claire. Je ne te demande qu'une seule chose, ma petite Claire. Ne jamais essayer d'entrer dans ma chambre, qui est toujours fermée à clé. Tu vois cette clé dorée là, sous le pied du bougeoir posé sur la cheminée? Elle ouvre la chambre où je travaille, la chambre où je m'enferme, à l'aide d'une autre clé toute semblable. Ne touche jamais à cette clé. Jamais, tu entends? Et même si je ne sors pas de plusieurs jours, même si un jour, en rentrant de promenade, il te semble que je ne suis plus là, que je suis partie, ne cherche pas à pénétrer dans cette petite chambre. C'est la seule chose que j'exige de toi. Pour nous qui connaissons le conte de Perrault, le suspense est ici à son apogée. Cet homme est-il donc un meurtrier? Pourquoi tente-t-il sa femme? Transgresser l'interdit, nous connaissons l'adage depuis la nuit des temps. Ève et la pomme, Pandore et la boîte, notre héroïne saura-t-elle résister? Pierre Péju continue de faire monter le suspense. Voici comment, le lendemain, la perversion se précise. Cette fois, il n'est pas devant son trou de serrure, mais il vient de se réveiller devant les fines raies de lumière qui passent à travers son volet. Claire coiffe ses longs cheveux, tête penchée en avant. Cou, nuque. Cette partie éternellement enfantine du corps d'une femme, une fois les cheveux soulevés. Et cette dépression légère entre deux muscles ronds et fermes. Cette douceur du duvet blond. Claire n'en finissait pas de se peigner. Mais peu importe Claire, restait ce fragment secret d'un corps se croyant seul, ce petit bout innocent d'un être entièrement livré à la valse floue des impressions matinales et ne soupçonnant pas l'obscur scalpel qui les découpe. Interminable minute. Mais je dus m'arracher à cette vision de nuque nue, tendresse duveteuse. Chair jaillit d'une échancrure d'étoffe écrue. Le front contre ce bois, en proie à un malaise de bonheur. Un coup de soleil coupé dansait dans le noir, dansait et se multipliait comme des phosphènes dans mes yeux aveuglés. Avez-vous une idée de ce qui arrivera ? Barbe Bleue est un voyeur, nous l'avons compris, mais ce n'est pas tout. Ceux qui reconnaissent la musique que j'ai choisie là pendant que je vous parle auront un indice de choix. Je ne vous dévoilerai rien, évidemment, comme je ne vous dévoilerai pas la façon dont se termine cette histoire. Je peux simplement vous dire que j'ai souri de plus en plus au cours de l'histoire, et puis j'ai carrément ri à la fin. Vous ai-je suffisamment donné l'envie d'aller lire cette nouvelle en entier ? Cette nouvelle m'a donné envie de chercher les héritages que Barbe Bleue nous a laissés, en littérature et plus spécifiquement en musique. Vous l'entendez sans doute derrière moi, c'est en japonais que chante cette femme. Un petit clin d'œil qui nous dit que les contes n'ont pas de frontières. De cet opéra rock japonais qui verse dans l'héroïque fantasy, à l'opérette d'Offenbach datée de 1866, le choix est large. J'ai choisi de faire halte sur un opéra de Béla Bartók, intitulé « Le château de Barbe Bleue ». J'ai choisi cet opéra en raison du livret écrit par Béla Balázs en 1918 et qui constitue une interprétation très moderne du conte. Voici le prologue. Il est un conte que l'on raconte. On dit « il était une fois ». Et comme en songe l'on revoit, messieurs, mesdames, espoir, chimère, lointain mystère, que nous apporte celui-ci ? Messieurs, mesdames, que nous apprend ce vieux récit ? La joie est brève, tout n'est que rêve. On aime, on souffre et le destin se rit. Il frappe soudain, messieurs, mesdames. C'est ce que l'on dit. Peut-être qu'il vous en souvient. Messieurs, mesdames, écoutez bien, regardez bien. Dans cette version du conte, réinventée pour l'opéra, l'épouse de Barbe Bleue s'appelle Judith. On découvre dès le début un homme très amoureux. Et Judith, sa femme, entreprend de le manipuler. Car il y a dans son château 7 portes fermées à clé. Barbe Bleue explique que c'est son intimité, qu'il ne souhaite pas la dévoiler. Mais Judith réussit à le persuader en lui disant qu'elle l'aime. À grand-peine, une à une, Barbe Bleue lui donnera les clés qui ouvrent les 7 portes. La première porte révèle une chambre de torture, tachée de sang. Horrifiée, puis intriguée, Judith continue. Derrière la deuxième porte se trouve un entrepôt d'armes, et derrière la troisième, une réserve de richesses. Derrière la quatrième porte se trouve un jardin secret d'une grande beauté, et derrière la cinquième, une fenêtre sur un vaste royaume. Mais des nuages rouges planent sur le royaume. Il pleut du sang, tout est couvert de sang. Barbe Bleue la supplie d'arrêter. Mais Judith le convainc de lui donner la sixième clé. Derrière la porte, un lac de larmes. Judith accuse Barbe Bleue d'avoir assassiné ses autres épouses. Il cède, il lui donne la septième et dernière clé. Elle ouvre, et là, avancent dans un halo de lumière les trois anciennes épouses. Vivantes, parées comme des reines, une couronne sur la tête couverte de bijoux. Barbe Bleue se prosterne devant elle, et il commence à couvrir Judith d'or et de parures. Il la couvre de trésors précieux jusqu'à ce qu'elle ploie sous le poids des richesses. La scène se termine ainsi, dans la tristesse et l'obscurité.
Soy la que manda, soy la que sabe. Anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana.
Cette version de Barbe Bleue met l'accent sur la façon dont Judith envahit l'intimité de son mari. C'est une succession de viols symboliques qui se joue là. Souvenons-nous que Béla Bartók est un contemporain de Freud, la psychanalyse est de mise. Ce qui est intéressant, c'est l'orientation que les interprètes ont choisi de donner à ce livret au fil du temps. En 2015, au Metropolitan Opera de New York, Judith incarne celle qui encourage Barbe Bleue à affronter ses peurs et qui ose faire face aux zones d'ombre du passé. Dans une mise en scène récente de 2020, à Munich, Judith est carrément détective policière, experte en infiltration. Elle ne succombera pas à son audace, mais parviendra au contraire à libérer les trois prisonnières. Barbe Bleue meurtrier, Barbe Bleue névrosée, Barbe Bleue amoureux. Le secret de Barbe Bleue n'a pas fini de chatouiller notre imagination. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les 1001 versions de Barbe Bleue, visitez donc la page que nous consacrons à ce podcast sur notre site intitulé « Tout avec presque rien ». Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur la nouvelle de Pierre Péjut et vous réciter quatre vers écrits au XVIe siècle par Pierre de Ronsard. Ils sont écrits en ancien français, mais vous allez voir, ils chantent comme une musique. Ses mains, ce col, ce front et cette oreille, et de ce sein les boutons verdelés, et de ses yeux les astres jumelés qui font trembler les âmes de merveille. Un sonnet intitulé « Ces liens d'or, cette bouche vermeille », extrait des Amours de Ronsard. Voilà une description et une émotion comparable à celle du héros de notre histoire. Peut-être une inspiration pour Pierre Péjut ? Et pour un retour aux sources, venez écouter la lecture intégrale du texte original de Charles Perrault dans notre collection de podcasts « Raconte-moi les contes » en ligne, sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Merci à Marie pour le mixage. Retrouvez tous les liens et les références sur notre site « Tout avec presque rien ». Je vous y prépare entre autres quelques jolies chansons françaises sur le thème de Barbe Bleue. À bientôt !